listen to the fucking Radio Girol.
Girol Radio Station.
Radio Station Essence, la radio à contresens.
Et bonsoir à tous. On va commencer par vous souhaiter à tous une bonne, libre et heureuse année 2020. Parce que, effectivement, nous avons commencé une nouvelle année. Et attendez, j'éteins la musique en même temps. Et voilà, vous êtes en direct du local Aquilonet à Bordeaux. Vous êtes nous en direct. L'année commence mal. Nous sommes en direct du local Aquilonet au 20 rue de Toura. Vous pouvez d'ailleurs nous rejoindre si vous voulez. Vous nous écoutez sur Radio Girol ou sur Radio Station Essence. D'ailleurs, un petit coucou et une petite bonne année à Guzel. Au programme de l'émission de ce soir, nous allons parler du coup agenda, des ateliers à venir. Simage nous fera le plaisir de parler de tout ça. On va parler aussi de la SACEM, parce que ceux qui ont suivi un petit peu l'actualité ont vu qu'il y a eu un arrêt de la Cour de cassation qui est relativement intéressant. Et du coup, du tollé que ça a suscité dans la communauté libriste et des différentes réactions. Nous allons parler aussi de la fin de Windows 7. Ça y est, c'est bientôt fini. D'ailleurs, nous organiserons sûrement un petit événement la semaine prochaine où vous serez tous conviés. Et je pense que c'est à peu près tout.
Je n'ai pas à l'écran l'agenda.
Voilà. On parlera aussi un petit peu de jeux vidéo en fin d'émission. Voilà.
L'agenda,
tout à fait, l'agenda.
L'agenda. Alors, la bulle nous fait un samedi du libre, le samedi 18 janvier, c'est-à-dire pas celui-ci, mais le suivant, de 10h à 13h à la médiathèque de Mérignac, à Mérignac. Et le thème, ça sera la photo, a priori c'est en préparation. Aquilonet, les prochaines portes ouvertes, ça sera le 4 février. Et il faut un atelier brique internet le samedi 18 janvier à 14h à la mezzanine. Alors, il y a une présentation rapide du projet, qu'est-ce que c'est que la brique internet, et une install party. Donc c'est ouvert a priori au public, mais il faut amener sa brique si on en a une, déjà, ou de l'argent pour pouvoir en acheter une, et un PC, plus un adaptateur qui permet de connecter une carte micro SD, un câble Ethernet RJ45, et si possible un accès VPN à Aquilonet déjà créé, avec des IPv4 et IPv6 fixes déjà fournis. C'est des demandes à faire sur Aquilonet. Donc le mieux, si on a des questions, c'est de se rapprocher d'Aquilonet. Il y a les contacts sur le site internet d'Aquilonet, aquilonet.fr. Voilà pour Aquilonet. OpenStreetMap, c'est toujours le second lundi de janvier. A priori, le prochain, donc c'est le 13 janvier. C'est à vérifier toujours sur la liste d'OpenStreetMap Bordeaux. Donc, liste.openstreetmap.fr/WWS. Mais on retrouve ça sur la page du groupe local que je mets toujours dans les articles de l'émission. Et enfin, non pas enfin. La Cubal, les Wikipermanences reprennent le 25 janvier à Mériadec de 10h30 à midi. Voilà. Et UNBI, la permanence d'UNBI, la prochaine sera en février, donc le vendredi 7 février de 18h30. À partir de 18h30, ça dure environ 2h, donc on peut dire 18h30, 20h30, à la salle informatique de l'école du Burc à Mérignac. Voilà pour l'agenda du Libre à Bordeaux.
Il y aura aussi, la semaine prochaine, une petite fiesta organisée chez Girol, décidée à la dernière minute, mais nous vous en reparlerons du coup à la fin de l'émission. Vous pourrez en apprendre un peu plus si vous écoutez l'émission jusqu'au bout.
Oh, le teaser.
Et voilà. Pour nous contacter, si vous voulez réagir en direct de l'émission, vous pouvez via, pour l'instant, l'IRC sur le canal Girol, dièse Girol, sur irc.freenode.net. Vous pouvez très bien depuis aller vous connecter soit avec un client IRC ou depuis le web, vous allez sur freenode.net et il y a une petite application de chat qui vous permettra de réagir en direct à ce qui se dit dans l'émission.
Et encore plus simple, c'est depuis le site Girol où on a fait un lien dans la présentation du collectif. Bon, je suis désolée, j'ai mes outils qui marchent pas, mes outils informatiques, donc je suis en train d'essayer de les faire marcher en même temps que je vous parle, c'est pas pratique. Mais voilà, si on va sur girol.org, www.girol.org, et qu'on va sur la page de la présentation, tout en bas, vous avez le lien vers un outil pour nous rejoindre en direct sur IRC.
Exactement. En attendant, on va se passer une petite pause musicale et on viendra vous discuter avec vous après de la SACEM et de l'arrêt de la Cour de cassation qui a condamné les enseignes Saint-Maclou à raquer la SACEM parce qu'ils diffusaient de la musique libre ou sous licence permissive en Creative Commons fournie par Jamendo qui s'appelle maintenant Isa.
Non, Jamendo n'a pas changé de nom.
Ah non, bon, non, c'est Jamendo.
D'accord, mm-hmm. Je crois qu'ils avaient changé de nom, Max.
Je crois pas, non. À ma connaissance, bon. Hein, je suis pas une,
par contre,
une fanatique de Jamendo, mais.
Non, ça me fait penser à Free Music Archive,
oui,
qui a été racheté.
C'est eux qui ont été rachetés, oui.
Voilà. Et je sais pas si t'es au courant, mais du coup.
On en parlera, je pense.
Voilà, on en parlera.
On en parlera en même temps. On fera un gros topo sur la musique
libre.
La musique libre. En attendant, on va écouter Mycelium, Attaque la Banque de l'album Vive la Sporulation. C'est une musique disponible sur Dogmazic et qui est en licence musique libre. Voilà, on trouvait que c'était
de saison.
Voilà.
De saison.
Et d'ailleurs, on dédicace ce morceau aux gens derrière le compte Mastodon de Dogmazic parce qu'il y a eu un petit échange. C'était assez sympathique. Mycelium sur Radio Girol et Radio Station Essence.
Le triomphe de l'Occident repose avant tout sur la religion matérialiste du bonheur terrestre par la consommation et de la satisfaction toujours renouvelée des désirs. Le profit, l'argent, la propriété. Vive la société de consommation pour les riches et pour les pauvres.
Attaque la banque mondiale. Attaque la banque et brûle le fric.
listen to the fucking Radio Girol.
Girol Radio Station. Et nous voilà de retour pour discuter du récent arrêt de la Cour de cassation quant à l'affaire qui opposait le spray et du coup son bras armé, la SACEM, et les enseignes Saint-Maclou et Jamendo de l'autre quant à au paiement d'une redevance pour reproduction, si j'ai bien compris, de phonogrammes. Dans les enseignes sous licence libre ou permissive d'artistes qui ne sont pas dans le catalogue de la SACEM par l'enseigne du coup comme j'ai dit Saint-Maclou et via son prestataire Jamendo. Isa, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu du coup, nous réexpliquer les faits?
Alors réexpliquer les faits, ben écoute, je pense que non, t'as pas mal résumé, non ? Bon, si, on va remettre dans le contexte. Donc, en fait, ça commence à dater un petit peu. J'avoue, j'ai pas les dates en tête, hein, mais bon, on est arrivé jusqu'à la Cour de cassation, donc c'est pas tout neuf comme affaire.
Ouais, ça va bien avoir 7 ans.
Ouais, quelque chose comme ça.
Ouais, c'est vrai que ça remonte.
Voilà.
Donc, on suit ça depuis longtemps.
Que, en fait, Jamendo fournit depuis longtemps la possibilité aux artistes qui utilisent un certain type de licence dite libre, qui sont les Creative Commons, avec une clause non commerciale, de passer par eux comme intermédiaire pour gérer la partie commerciale, justement, qui n'est pas gérée par la licence. Donc, ils proposent un contrat de distribution et ils ont proposé, de l'autre côté, à des sociétés comme Saint-Maclou de diffuser la musique que propose Jamendo. Dans à l'intérieur des magasins Saint-Maclou. Jusque-là, tout va à peu près bien. Sauf que, évidemment, cette diffusion implique que la rémunération équitable, qui est un droit voisin, non pas un droit d'auteur, mais un droit voisin des droits d'auteur, soit versée. Alors, théoriquement, cette rémunération équitable, elle doit aller aux artistes interprètes et éventuellement des producteurs éditeurs. Voilà, donc sur ces bases-là, évidemment, la SACEM qui collecte les droits pour le compte de l'ASPRE et l'ASPRE ont attaqué en justice Saint-Maclou, en l'occurrence, qui, je pense, a embarqué Jamendo dans l'affaire, puisque normalement, ils auraient dû prévoir le coup. Et ce n'était pas le cas. Donc, mais c'est le diffuseur final qui est donc Saint-Maclou qui est concerné en premier chef.
Qui pourra sûrement se retourner contre oui. Jamendo.
Voilà. Donc, au final, la Cour de cassation a confirmé les deux autres, avis, voilà, des jugements qui ont été rendus. Et ce n'est pas surprenant du tout, puisque c'est assez clair dans les textes. Donc voilà où on en est.
Oui, parce que du coup, si je lis, alors il y a un excellent article sur le site de Silex.
Ah oui, si vous voulez vraiment tout comprendre, et c'est très très bien expliqué, lisez cet article, il est limpide.
Exactement, et il dit que, alors il dit, sans entrer dans les détails, je cite, hein, « Les faits portés sur le conflit entre l'enseigne de magasins Saint-Maclou et deux sociétés de gestion collective, la SACEM et le SPRE, si j'ai bien compris, l'un étant le bras armé de l'autre, en
oui,
fait.
Oui, bien sûr.
À propos d'un versement d'une redevance prévue par la loi pour la diffusion publique de musique enregistrée, le code de propriété intellectuelle prévoit en effet que les lieux publics souhaitant sonoriser leur espace avec des, l'auteur cite, des phonographes publiés à des fins de commerce, doivent verser une redevance dite rémunération équitable. Alors, en aparté, on se demande bien ce qu'elle a d'équitable, hein. C'est-à-dire que le pognon collecté par la diffusion d'artistes qui sous licence Creative Commons va sûrement partir à Johnny, qui n'est même plus là pour en profiter. Mais on compte sur
Alors,
sa famille pour se battre.
Il y a Laetitia.
Et voilà, on compte sur sa famille pour se battre pour ce pognon qu'ils n'ont pas gagné. Donc, dite rémunération équitable destinée aux titulaires des droits voisins sur la musique, c'est-à-dire les artistes interprètes et les producteurs. Cette rémunération est collectée d'abord par la SACEM, qui la reverse à la SPRE.
C'est ça.
À charge pour elle de répartir in fine aux 10 ayants droit. Cette redevance ne concerne que les droits voisins. La rémunération au titre du droit d'auteur était gérée directement par la SACEM via l'application de ses forfaits.
Tout à fait.
Donc en fait, si je produis la musique dans mon garage, je vais quand même raquer le producteur de Rojoni.
En fait, c'est un peu un raccourci. Tu vas pas le raquer directement, en fait.
Non.
En fait, cet argent qui normalement doit revenir aux artistes-interprètes qui utilisent les licences NC, puisque légalement c'est ce qui est prévu. Normalement, ils devraient pouvoir le réclamer. Et c'est ce qu'il explique aussi dans la suite de l'article. Théoriquement, ce qui devrait se passer, c'est que les artistes en question aillent toquer à la porte de l'ASPRE pour dire vous l'avez collecté, donc vous me la devez. Et qu'est-ce qui va se passer vraisemblablement s'il y en a qui font ça? Il n'y en aura peut-être pas beaucoup, mais ça pourrait arriver. Ils vont se faire rabrouer, ou alors on va leur dire c'est très bien, inscrivez-vous chez nous. Seulement, quand tu utilises des licences libres, c'est pas vraiment compatible avec la gestion collective, puisque justement la gestion collective, elle ne permet pas la liberté de circuler comme ça des œuvres.
Parce qu'il faut s'inscrire où, du coup, il faut s'inscrire à la SACEM ou il faut s'inscrire à la SPRE?
Alors ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas s'il faut s'inscrire à la SACEM qui elle-même va faire l'intermédiaire directement, ou bien s'il faut être inscrit à l'ASPRE directement. Mais je pense que si c'est l'ASPRE qui gère, c'est qu'à un moment donné, il y a une inscription qui se fait à l'ASPRE. Est-ce que ça se fait en même temps qu'une inscription à la SACEM, ou est-ce que ça se fait directement auprès de l'ASPRE? Je ne sais pas.
Par contre, une petite remarque, du coup, il est tout à fait possible que Jamendo, se posant en producteur, aille directement réclamer à l'ASPRE.
Non, ils ne sont pas producteurs. Là, ils ne sont qu'intermédiaires. Ils ne sont que des intermédiaires. Ils ne sont même pas, comme on en a discuté tout à l'heure hors antenne avec Simage, ils ne sont pas une société de gestion collective. Ils ne peuvent pas être considérés comme une société de gestion collective annexe ou parallèle ou autre. Parce que les règles pour mettre en place une société de gestion collective sont très, très précises et particulières. Il faut avoir l'avis de l'État. Enfin, c'est l'État qui va décider si... Oui ou non, cette société sera...
En tout cas, aujourd'hui, ils ne le sont pas.
Et en plus de ça, ils sont au Luxembourg. Donc, déjà, à la
mais
base...
Est-ce qu'on peut s'imaginer qu'ils peuvent servir justement d'intermédiaires pour pousser les artistes? Parce que, je vais dire une connerie peut-être, mais effectivement, ils sont diffusés juste par une enseigne, ils vont gagner des clopinettes. Mais si à un moment donné, tous les artistes qui sont concernés aller à l'ASPRE pour demander leur dû, ça coûterait sûrement très cher à l'ASPRE en paperasserie administrative pour leur filer des clopettes.
Mais c'est pour ça que l'ASPRE va leur dire inscrivez-vous chez nous. Et là, à ce moment-là, tu te retrouves coincé parce que tu ne peux pas faire partie du système. Voilà, c'est l'un ou l'autre. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce problème révèle bien qu'il va y avoir un hiatus qui va se poser. Et c'est ce qu'explique très bien l'article de Lionel Morel de Silex. C'est très bien expliqué. C'est-à-dire que les gens, après, ont beaucoup réagi dans la sphère du libre en disant que c'était un scandale, que ça va, voilà, que ça allait être une. Que ça allait faire boule de neige, mais pas précisément sur. La même problématique, en fait. C'est ça qu'il explique, c'est que l'affaire qui concerne Jamendo, c'est en fait un problème contractuel. Donc, la justice sera obligée de rendre de nouveau un avis particulier à chaque fois que ce problème va se poser, parce qu'en fait, ce que Jamendo fait, ce n'est que gérer une partie qui n'est pas prévue dans la licence. C'est la partie commerciale. La licence, elle gère tout ce qui concerne le
non-commercial. Oui, il faut dire que les artistes chez Jamendo sont poussés à prendre des licences CC by NC, quelque chose comme ça.
Bien sûr, s'ils veulent effectivement profiter du système de rémunération.
Voilà.
Sinon, ils ne peuvent pas.
Oui, il faut une clause non-commerciale.
Il faut une clause non-commerciale pour pouvoir faire un contrat commercial à côté.
Ah oui, tu ne pourrais pas faire une CC0 et avoir... Tu peux faire un contrat commercial quand même avec une CC0.
Oui, mais...
Ça n'empêche pas.
Eux, ils
pourraient se permettre de ne pas le faire.
Le problème, c'est que tu fais un contrat.
Oui.
Donc, la licence ne te permet pas de faire un contrat. La licence libre, le Jamendo a le droit de prendre la licence libre et de la faire diffuser chez Saint-Maclou sans rien verser.
Oui, si tu fais une CC0.
Oui.
Oui, mais ça n'empêche qu'on pourrait quand même faire un contrat commercial.
Ça n'empêche pas
le contrat commercial.
D'un point de vue légal, ça n'aura pas vraiment de sens. Ça n'aura pas vraiment de...
Ah si
de c'est-à-dire que... Oui, mais tu pourras pas le faire valoir puisque de l'autre côté, ça peut circuler librement avec
zéro.
Oui,
oui. Non, mais tu pourrais pas te battre contre Jamendo s'il décidait de diffuser ta musique sans te payer. On est d'accord. puisque tu es en CC0. Par
Donc
contre, ça n'empêche pas.
Il est caduc.
Non, ça n'empêche pas Jamendo de décider et d'accepter de payer.
Alors,
de te
on va
de
dire,
faire un contrat
dans
avec toi.
Ça n'empêche pas une plateforme. On va pas parler de Jamendo.
De financer.
Parce que
oui.
Là,
oui,
leur
oui.
modèle, il correspond à quelque chose de vraiment. Qui colle vraiment à quelque chose de commercial. Et de toute
oui,
façon,
oui.
c'est prévu comme ça. Et de toute façon, même Creative Commons propose des combinaisons de licences avec Close NC,
oui, oui.
plus des parties de licences commerciales. Donc, il n'y a pas que Jamendo qui fait ce genre de choses.
Une plateforme, en mais tout cas, pourrait créer un contrat avec n'importe quel artiste.
C'était pendant longtemps dans les tuyaux chez Dogmazic, en tout cas, l'association Musique Libre, plus précisément, de pouvoir permettre de redistribuer des fonds collectés globalement et de redistribuer à des artistes. Mais ça, c'est possible, mais ça peut être considéré comme un format don, voilà, mais pas comme un contrat commercial.
Y a Mathis qui dit un truc, il dit ce qu'il faudrait, c'est qu'un artiste essaye de s'inscrire à l'ASPRE pour attaquer le contrat comme violant sa licence pour poser une QPC.
Ah, ben, bien sûr, il faudrait, mais qui va le faire? Bon, voilà, comme dit Donnel Morel, il est fort peu probable qu'il y en ait qui le fassent. Peut-être qu'il y en a qui le feront. Et voilà, on n'est pas, moi, je suis pas à la place des gens qui sont dans le cas Jamendo.
Mais en même temps, quel artiste qui déjà fait peut-être de la musique, même de façon professionnelle, mais qui arrive à en survivre à peine, va essayer d'attaquer en justice un édifice comme le Spray
bien sûr,
ou la SACEM,
une bonne question,
qui ont eu, eux, à leur disposition, une armée d'avocats
Bien
et
sûr,
des moyens financiers quasi illimités.
Tu vois bien que contre Jamendo et Saint-Maclou, ils ont gagné. Pourtant, Saint-Maclou, ce n'est pas une petite boutique hein,
non
plus.
Mais
et Jamendo, c'est quand même aussi une société commerciale et qui est gérée par des fonds privés. Donc, et puis, pas n'importe lesquels. Donc, bon, on va pas rentrer
oui,
dans les détails.
Mais... Non, mais on n'est pas là pour dire voilà. Jamendo, c'est le bonheur et
c'est
la solution.
Exemple. C'est un bon exemple. C'est un exemple.
Et mais
faut le traiter en tant que tel.
Mais du coup, ça... Quid de, par exemple, j'organise un événement avec une buvette, je me lie par contrat avec un groupe qui fait de la musique sous Creative Commons NC pour qu'il vienne jouer devant un public. Il va falloir que je paye
la
redevance.
C'est pas une redevance, c'est la rémunération équitable.
Oui,
c'est
la rémunération équitable. Écoute, je sais pas comment ils pratiquent leur tarif, mais comment ils fonctionnent au niveau de la tarification. Est-ce que c'est sous forme de forfait? A priori, si on regarde l'infographie qu'il a publiée, je pense que oui.
Oui, c'est un forfait.
C'est un forfait pour les pour ce genre de truc.
Mais
comme pour les droits d'auteur pour la SACEM, quoi. Alors après,
en fait...
pour les droits d'auteur pour la SACEM, il y a. Il y a des choses qui sont similaires, enfin, en fin de compte. Parce que quand les gens diffusent de la musique et libre et non libre, ils payent de toute façon un forfait, dont les mecs qui sont en licence libre ne verront jamais
oui,
la couleur.
Oui, ne profiteront pas.
Donc c'est
oui,
pareil.
Mais par contre, là, ce qui est attaqué...
Ça a un nom, ça. Et... Ça s'appelle la mafia, en fait.
C'est
ils vont faire le racket.
Mais depuis longtemps déjà... La gestion collective des droits d'auteur dont on nous rappelle, voilà, on nous vante les mérites comme étant quelque chose de généreux envers les auteurs, de partage, etc., etc. Mais non, en fait, ça ne favorise pas les auteurs. Et d'ailleurs, si tu regardes le copyright madness qu'ils font toutes les semaines, là, Lionel Morel et puis un autre gars sur Numérama, tu vas voir qu'il y a moult exemples qui concernent des artistes, des auteurs, qui ne sont pas forcément que dans la musique, hein, mais dans l'édition littéraire, etc., qui sont de cet ordre-là. C'est-à-dire que ce sont des auteurs qui doivent eux-mêmes payer des droits sur des choses qu'ils ont écrites, par exemple. Tu vois, pour pouvoir être... voilà.
Oui, mais
c'est
les trucs qu'on avait vus aussi pour les auteurs qui font des dons, enfin les artistes qui font des concerts en soutien d'eux et qui sont obligés de se faire rémunérer, voire de reverser le truc parce qu'il faut payer la SACEM et puis c'est
bien
tout.
Bien sûr. Oui, bon, après, voilà. Et dans certains cas, la SACEM fait des exceptions, j'imagine. En tout cas, que c'est le cas pour les télétons, ce genre de choses.
Je ne crois pas.
Je serais curieux de voir ça.
Je me rappelle que pour les enfoirés,
ça reste
c'était ça, je crois. Il fallait payer et ensuite, eux, reverser, entre guillemets. Mais finalement, c'est l'artiste qui fait un don derrière, mais faut payer la SACEM. Alors, je dis ça, ça remonte un peu, donc ça se trouve.
Oui, alors, il y a une affaire très connue qui est Hugo Frey avec Adieu, oui. Monsieur le Professeur, hein, que ça avait fait quand même le tour de la France.
C'est vrai, oui.
Donc, oui, ça, c'est vraiment un cas tout à fait avéré. Mais je pense que la SACEM fait quand même des exceptions. Mais bon, le truc, c'est que on ne sait pas quoi. Ça reste très flou. La gestion interne de la SACEM, elle est complètement opaque. Hein. Je veux dire, il y a qu'une commission qui s'occupe de rendre des comptes sur la manière dont sont gérées les sociétés de gestion collective des droits en général, qui sort un rapport tous les ans ou tous les deux ans, je ne sais plus. C'est un truc imbuvable. Et chaque année, chaque fois que le rapport y sort, la SACEM dit « Ah, c'est génial, elles vendent nos mérites ». Quand tu regardes à l'état, ce n'est pas réellement le cas. Mais bon, c'est quand même un document assez imbuvable. Mais c'est difficile de savoir, voire même impossible de savoir, quel droit a été versé à qui exactement. Quoi. Tu ne le sais pas. C'est tout à fait opaque. Quoi.
Il en ressort quand même dans les bruits de couloir que c'est les plus gros gagnent, les plus petits.
Mais évidemment, oui. C'est sûr que c'est une société. Par exemple, les droits comme la rémunération équitable ou les droits d'auteur qui sont collectés au titre, on va dire, des forfaits. Quand, par exemple, ça concerne des gens qui font de la musique libre, ça va partir dans des caisses, une espèce de caisse commune là, dont ils vont faire après, ils vont les mettre dans des événements qu'ils promeuvent pour
voilà,
eux-mêmes.
Voilà, c'est ça, oui. Des financements d'événements.
Voilà.
Donc, en fait, in fine, les mecs qui font du libre
financent
les concerts de Johnny ressuscité.
Comme la taxe à la copie privée. et tout ce genre de
truc. Après, donc l'idée, c'est ça. C'est que cette société-là, la SPR et la SPRE, c'est une sorte de taxe obligatoire, voilà, quoi que tu fasses.
C'est le droit de cuissage de la SACEM sur toute la musique.
C'est pas la SACEM,
oui,
c'est les droits voisins.
Oui, de la SPRE.
Mais du coup, ce qui se passe pour les artistes en musique libre, on est d'accord, du coup, la SACEM ne les cherche pas, eux. Enfin, c'est pas la SACEM qui cherche à récupérer quelque chose. On est bien d'accord, c'est la société là pour les droits voisins.
C'est la SPRE.
C'est la SPRE. Mais oui, donc c'est juste une entité en plus qu'il faut prendre en compte. Sauf que d'habitude, les gens ne se rendent pas compte qu'ils le payent parce qu'ils payent un forfait à la SACEM lequel il y a déjà ce forfait-là, en fait.
Tu ne sais pas ce que... C'est obligatoire, donc tu le fais, machin, et puis terminé, quoi. Mais qu'est-ce que ça devient au final
à
qui
c'est
reversé?
Oui.
Personne ne se pose vraiment la question. Et dans les médias mainstream, personne ne se pose la question parce que tout le monde bouffe au râtelier, il faut bien le dire. Qui est concerné par la rémunération équitable? Quand tu vois que les artistes interprètes sont concernés, ok, pourquoi pas? Parce qu'en fait, eux, ils étaient délaissés par le droit d'auteur. Bon, ok.
Et qu'on considère qu'une interprétation.
Tu as quoi? Les producteurs. Déjà, les producteurs, ils se sont invités dans les droits d'auteur, ben, ils se sont invités aussi dans la rémunération équitable.
Ah, ils sont invités dans les droits d'auteur, c'est-à-dire?
Oui, parce qu'il y a très très longtemps. Oui, mais ça remonte à beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longtemps.
Mais ils sont à la SACEM, tu veux dire?
Mais en fait, ce sont les éditeurs, puisque la SACEM, ça veut dire Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. C'est le
de
SACEM.
Ouais, mais les producteurs ne sont
déjà
pas forcément
dedans,
les éditeurs. Le producteur, c'est celui qui va aussi faire un travail sur le son,
oui,
des choses
alors,
comme ça.
Alors voilà, bon, effectivement, il y a les producteurs. Mais bon, après, il peut y avoir toutes les justifications possibles hein, pour en créer des droits voisins. D'ailleurs, ils en parlent encore de créer d'autres droits voisins. Et donc, ce que dit Lionel Morel dans son article, ce qui est vraiment intéressant dans le cas qui est soulevé là, c'est pas vraiment que ça va créer une jurisprudence par rapport à ce système tel que Jamendo l'a pratiqué, puisque c'est un contrat et donc fatalement, il va y avoir à chaque fois un regard particulier puisque c'est contractuel, la partie non commerciale
qui
va être tirée. Mais c'est surtout le fait que il y a déjà eu des tentatives avec les Google Images, etc., de taxer toutes les images qui étaient diffusées sur Internet.
Non, pas diffusées, c'est celles qui étaient indexées par un moteur de recherche.
Voilà, indexées par un moteur de recherche, on va dire, et qui, quelle que soit leur nature, donc libre ou pas libre, le problème c'est qu'elle est libre dedans.
C'est ça, et qui recevait ses droits.
Ça a été mis de côté parce que techniquement, je pense que c'était difficile à faire. Et et que légalement ça passait pas, je sais plus trop exactement où était
par
le schmurt.
Par rapport à la loi européenne, a priori.
Mais la loi européenne, justement, oui, par rapport au droit européen, ça passait pas. Mais la nouvelle directive européenne qu'on va devoir transposer en droit français va permettre de faire ce genre de choses. Et donc là, on risque d'avoir une généralisation de ce système et on va sans doute se retrouver dans le cas où même les licences libres devront, même les, on va dire, les objets sous licence libre devront donner lieu à ce genre
à la perception
de perception des droits voisins, comme la rémunération équitable. Je dis comme parce qu'il peut y en avoir d'autres suivant, oui, oui. Suivant de quel objet on parle. Là, on parle de musique, mais effectivement, ça peut être autre chose
pour de la, pour support. De l'image ou
voilà,
quoi que
c'est
ça.
D'accord. Et donc, c'est là qu'il y aura sûrement une évolution à surveiller de très près.
Ce qui se passe, en tout cas aujourd'hui, là où on en est, ça veut dire, OK, pour faire un contrat, par exemple, avec Saint-Maclou, Jamandos, Saint-Maclou, mais l'un des deux doit reverser quand même une partie, enfin, de l'argent.
Mais ça
à
représente quand même une somme importante.
La SPR,
ils ont
c'est 120 000 euros.
120 000 euros, oui.
Et en fait, ce que dit Lionel Morel dans son article, c'est que Jamendo, ça remet en cause le modèle économique de Jamendo.
De Jamendo, oui. Mais parce que c'est vrai que là, pour être en concurrence, entre guillemets, avec la SACEM, il faisait payer moins cher Saint-Maclou que le forfait SACEM, a priori.
Et voilà.
Donc ça devenait intéressant pour Saint-Maclou de diffuser de la musique libre.
Tout à fait.
Et de leur côté, Jamendo valoriser le fait qu'ils rémunéreraient mieux les artistes. Mais ça, on ne peut pas vérifier. Enfin, moi, je ne suis pas chez eux, donc je ne peux
pas
vérifier.
Non, on peut pas vérifier.
Il faudrait que des artistes aient fait les deux pour se rendre compte, entre guillemets. Enfin, c'est un peu complexe.
Alors,
pour faire
après,
la...
il a dit quelque chose dans son article qui m'a un peu étonnée. Mais bon, après, moi, je ne suis pas allée vérifier non plus. Il disait que Jamendo garantissait à Saint-Maclou, justement, ou aux prestataires, à ses clients, donc comme Saint-Maclou, que les artistes qui diffusaient n'étaient pas inscrits à la SACEM.
Parce
non, que justement,
c'est pire que ça. C'est si tu t'inscris chez Jamendo, il
te
faut que tu
signer,
leur dises que t'es pas à la SACEM.
Ils font signer un papier comme il quoi dit... t'es pas à la SACEM.
Alors, oui. je,
eh ben, je suis désolée, mais bon, en ce qui me concerne, personnellement, je vois pas ce qui empêcherait un artiste de dire « Ok, je te signe le papier » et en fait, t'es inscrit à la SACEM. Alors après, ils peuvent se retourner contre l'auteur en question, mais bon,
mais
ça garantit rien.
Oui, attends, c'est un contrat à un moment donné. Oui,
bien
ça
sûr.
Garantit rien, mais c'est un contrat. Un contrat, ça veut dire, si tu me mens, je peux t'attaquer.
Ok,
et
d'accord.
Et tu me devras des sous.
Bon, ben, si tu veux, si moi ça me fait sourire, c'est que je sais par expérience qu'il y a beaucoup d'artistes chez Jamendo, en tout cas, j'ai arrêté de regarder il y a un moment, hein, c'est vrai, mais il y en avait quand même un paquet qui avait la clause NC et qui n'était pas du tout libre. Donc...
Qui était chez la SACEM, tu veux
et
dire.
Et qui pouvait être chez la SACEM, ouais.
D'accord.
Donc bon, voilà quoi.
À vérifier.
Pourquoi pas, à vérifier. Mais,
oui, oui, mais ça...
encore une fois, Jamendo n'est pas une société basée en France. C'est une
oui.
société qui est basée au Luxembourg. Voilà, donc il n'y a pas non plus forcément toujours... comment dire
de discussion entre les entités.
Je sais pas. Voilà, bon, Jamendo c'est un cas particulier quoi. Et on parle vraiment d'un contrat. C'est des contrats commerciaux de ça. Bon alors effectivement, hein, Jamendo peut dire mes artistes ils ont signé le papier. Ça la dédouane, hein. Ça
ben,
dédouane
oui,
la société.
Complètement. Ça dédouane Jamendo.
Ah
ben
oui, ça dédouane Jamendo.
Vers votre artiste. Bah bien sûr.
Mais bon après,
faut se retourner vers l'artiste.
Exactement.
C'est aux artistes de faire gaffe à ce qu'ils font aussi.
C'est voilà, c'est eux qui risquent de
bah,
se retrouver
de prendre,
coincés.
Hein.
Du coup, Lionel Morel dit que une des conséquences peut-être qu'on n'a pas assez anticipé, c'est que, je cite, « d'autres conséquences néfastes pourraient également découler de cette décision. Si on réfléchit à plus long terme, la Cour de cassation nous dit, en effet, que les mécanismes légaux de type licence légale ou gestion collective obligatoire peuvent prévaloir sur les licences de type Creative Commons. »
Oui, c'est ça. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure.
On hiérarchise effectivement on hiérarchise le.
C'est ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ce sera inscrit dans le droit, vraiment clairement que ben c'est une forme en fait effectivement de licence globale, enfin ou pas d'ailleurs. Effectivement,
en tout
ça
cas,
passe
de taxes obligatoires.
Mais après, ça peut être aussi une base de discussion. Il y a quand même beaucoup d'artistes qui sont en licence libre, qui n'auront pas envie de passer en par la SACEM ou dans le système tel qu'il est géré. Et il y aura peut-être moyen, par le biais d'un collectif ou d'une association, de dire bon ben voilà quoi, maintenant il faut poser les choses sur la table et il faut nous laisser une place qui soit pas ou la SACEM ou zéro quoi.
Oui, mais là c'est pas ou la SACEM ou zéro.
Mais si.
Non, c'est ou la SACEM ou autre chose plus la SPRE.
Non, parce que l'ASPRE,
pardon.
Elle sera collectée, mais eux, ils toucheront jamais rien.
Ah oui, bah eux comme ne toucheront rien par rapport à l'ASPRE.
Sauf que ça sera obligatoire, vraiment.
Ah bah oui, et ça sera une taxe. Non, mais une sorte de taxe.
Ce qui sera payé par les plateformes, comme Dogmasic, par exemple.
Tout à fait.
Ce qui
est problématique. Dogmasic, s'ils vendent, on est toujours dans la logique de la vente. S'il n'y a pas de vente...
Non, ce que dit Lionel Morel, c'est que s'ils transposent dans le droit... comme ils ont essayé de faire sur l'indexation des images de Google, s'ils disent que tout ce qui est diffusé sur Internet doit donner, ça le problème. Pour l'instant, on n'y est pas, mais ça pourrait être le cas.
Et ce qu'il y a de plus rigolo, c'est qu'il le souligne aussi dans son article, c'est que du coup, l'argent collecté par l'ASPRE dans le cadre de Saint-Maclou, où effectivement, si on arrive à une taxe générale sur la musique diffusée, même qu'elle soit libre, c'est que l'argent, ces artistes ne le verront jamais. Et en plus, il servira sûrement à financer, il sera dans les irrépartissables, et il servira sûrement à financer les actions de lobbying de la SACEM et du SPRE pour renforcer encore plus
bien sûr. Mais oui, mais c'est ça le pire. C'est le pire, il est là. C'est
pour ça que tu seras obligé de payer pour te faire battre.
C'est pour ça que je pense que l'idée, ce serait de fédérer quelque chose. Bon, il y avait eu cette idée-là autour de, enfin, dans l'association Musique Libre à un certain moment. Je pense qu'il y a encore des choses qui sont dans les tuyaux du côté de l'association. Après, je sais pas, j'ai pas repris contact depuis un petit moment, mais. Il y a peut-être des choses qui se préparent sur la diffusion d'artistes dans des lieux publics, mais je n'en parlerai pas plus parce que je n'ai pas de news pour le moment. Mais en tout cas, ce qui serait bien, c'est qu'il y ait une sorte de fédération des artistes qui font du libre, en tout cas dans la musique, pour pouvoir contrer cette future légalisation, on va dire, globalisation de la rémunération équitable, par exemple, si ça devait être le cas. Donc bon, pour l'instant, c'est pas encore le cas, mais ça serait bien, parce qu'effectivement, on risque de se faire vraiment écraser par le système là pour le coup.
Alors, il y a Mathis fait une petite intervention. Je cite : le problème des droits d'auteur, c'est qu'ils ont été inventés pour protéger les auteurs des abus des diffuseurs et des producteurs, et ils ont été détournés contre eux, contre ceux qui les écoutent.
Exactement. Ils sont détournés contre eux. Ils sont même d'ailleurs
contre ceux qui les écoutent, c'est-à-dire contre nous, le public.
Contre nous, le public, mais aussi contre les auteurs eux-mêmes. Si tu lis le Copyright Madness de cette semaine, par exemple, il y a le cas d'un humoriste qui a, ou d'un, je ne sais plus quel est son nom, qui a fait un film sur la vie de son père.
Oui.
Et la société d'édition du livre sur lequel est basé ce film, qui a été écrit par son père, lui demande des droits. Oui. C'est l'histoire de son père. La société d'édition lui demande des droits sur sa propre histoire. C'est quand même énorme. C'est fabuleux, non ?
Eh bien, moi, j'ai rien compris ce que tu dis.
Alors, donc, il y a un gars qui a fait un film sur l'histoire de son père.
D'accord. Mais il avait écrit un bouquin avant.
Son père a écrit un bouquin. La société d'édition du bouquin demande des comptes au mec qui a fait le film. Dans la même catégorie, tu as donc Paul McCartney qui, chaque fois qu'il fait un concert, doit payer des droits à Sony sur les chansons qu'il a écrites. Eh oui. Parce que bon, nous on a un système.
Parce que c'est leur système aussi.
Leur système à eux, c'est une gestion patrimoniale. Il n'y a vraiment que le droit chez les anglo-saxons, c'est le droit patrimonial qui prime surtout. Donc voilà. Oui, voilà, tu as les
d'accord,
tu
as la...
Nous, on a un capitalisme de gauche. Eux, ils ont un capitalisme de droite pour la gestion de la musique, en gros.
C'est ça, voilà. Et encore, un capitalisme de gauche, oui, moyen, quoi.
Oui, il y a le mot capitaliste, à côté,
tu as, c'est ça.
Avant de gauche.
Oui, hein. C'est ça. Donc, bon, il y a énormément, de toute façon, de cas... de cas comme ça, et de plus en plus. Et il y en a un qui est rigolo cette semaine, c'est les vœux de Macron.
Oui.
qui ont été caviardés par YouTube au prétexte que ça ne respectait pas les droits de TF1, droit à l'image de TF1.
Voilà. C'est ça. Mais de toute façon, nous ne respectons tous pas le droit à l'image de TF1, et un jour, ils nous censureront TF1, nous censurant de long en large.
C'est ça.
Nous le savons. Bon.
Allez, on s'écoute un peu de musique.
Exactement.
Sous licence libre, bien sûr.
Alors, je réponds juste à Mathis qui dit capitalisme de gauche, pas très compatible ces deux mots. Effectivement. Et... Mais c'était le petit principe. On va s'écouter un petit peu de musique. Je vous propose Jeff Rosenstock. L'album s'appelle Post. Le numéro s'appelle USA. C'est sous les séances Creative Commons by NCND, me semble-t-il. Voilà, c'est sur Radio Girol.
Dogs out and downtrodden and dejected, crestfallen, grief-stricken and exhausted, trapped in my room while the house was burning to the motherfucking ground. Thank you.
Radio Station Essence, Radio Station Essence, Radio Station Essence.
Sans faire de bruit.
T'écoute Radio Giro.
Et nous voilà de retour du coup en direct du local à Quillonnette au 20 rue de Toura. Vous pouvez toujours intervenir en direct sur l'IRC. Vous allez sur www.girol.org sur la page à propos, enfin présentation du collectif. Et là vous avez un petit lien pour vous connecter directement au chat et discuter avec nous. Sinon pour les plus férus d'entre vous de technologie, vous allez sur irc.freenode.net, salon d'IS Girol. Après avoir parlé un petit moment de droit d'auteur, tout ça, tout ça, on va parler un peu de jeux vidéo, mais c'est un petit peu la même chose, dans le même esprit, c'est toujours le consommateur qui se fait avoir jusqu'au bout. On va parler d'un cas très spécifique, on va parler de Battlefield 5, un jeu, bien sûr, copyrighté, d'Electronic Arts, que l'on peut jouer facilement sous Linux grâce à Wine, la couche on peut dire d'émulation, mais qui permet de lancer des applications Windows sous Linux, et de DXVK qui permet de traduire les appels DirectX vers les appels Vulkan pour tout ce qui est graphique. Et ces deux logiciels combinés à l'excellent Lutris de notre ami Strider permettent de jouer facilement sous Linux à des jeux qui ont été prévus à la base pour Windows avec des performances vraiment, vraiment acceptables. Le fait est que des joueurs en ligne qui jouaient donc en réseau sur Battlefield 5 se sont vus bannir des serveurs de jeu tout simplement parce qu'ils utilisaient Wine et DXVK et non pas un véritable Windows qu'il faut acheter plein cher pour en plus refiler tout un tas de données personnelles à Microsoft, l'heure où vous allez faire caca, quel site vous visitez, tout ça, tout ça. Bref, tout ça pour dire que c'est pas un problème nouveau et qu'il n'est pas apparu effectivement avec Battlefield 5. Et c'est un problème qui touche généralement les jeux en réseau. Il est très présent chez Blizzard. On a beaucoup d'infos qui remontent, notamment sur gamingonlinux.com qui en parle régulièrement. Ou parce que vous utilisez Wine et DXVK, vous êtes forcément un tricheur et donc vous vous faites bannir des comptes. Blizzard ont carrément été bannis parce que on pensait que pas pour tricherie alors que pas du tout. Donc c'est un problème qui est assez récurrent. Alors il y a effectivement des initiatives souvent menées par Valve Software, hein, les créateurs de Steam, pour essayer de transposer Easy Anti-Cheat et de le rendre compatible Linux ou du moins le faire fonctionner correctement avec Wine, pour que les joueurs puissent utiliser leur Linux afin de jouer sans être bannis des serveurs de jeu. Mais voilà, ça avance doucement, mais la plupart du temps, ce n'est pas facile. Alors, les barrières tombent au fur et à mesure, hein. Rappelez-vous, il y a quelques années, c'était très difficile de jouer sous Linux à des jeux Windows, notamment dès qu'un jeu était utilisé DirectX 10 ou 11, c'était pas possible d'y jouer. On a vu l'avènement de Wine, de DXVK, la montée en puissance de Lutris pour aider les joueurs à installer facilement des jeux sous Linux. Maintenant, on a encore une barrière. Voilà. Ah, alors j'ai en ligne du coup sur le sur l'IRC. Alors non, Valve n'a rien à voir avec EAC, c'est une erreur de ma part et je m'en excuse. EAC appartient à Epic.
Epic Games. Heureusement que Strider est à l'écoute.
Exactement. Merci du coup Strider. Oui, d'ailleurs, on va un petit peu passer un peu du coq à l'âne, mais c'est très bien qu'il parle d'Epic Games parce qu'on en a parlé, je crois, la semaine dernière de Lutris qui avait le mois dernier, pardon. J'ai un début d'année difficile. Excusez-moi. On avait parlé d'Epic Games qui fait des pas doucement vers Linux. Alors moi personnellement, en tant que joueur, je n'irai pour l'instant pas acheter de jeux chez eux, mais vraiment pas, parce que je les hais au plus haut point. Ils ont prouvé par le passé qu'ils détestaient la communauté Linux, et là on a le PDG, je sais pas si vraiment le PDG emblématique de
peut pas t'aider
d'Epic Games, qui a longtemps pesté contre Linux en nous traitant comme des moins que rien, qui file du pognon. Ils ont filé du pognon le mois dernier à Lutris.
Oui, pour qu'ils développent
Lutris.
Lutris, c'est bon.
Voilà, et pas une petite somme, donc c'est hyper cool.
Donc Strider précise, il y avait une rumeur comme quoi Valve travaillait sur la compatibilité EAC, mais en réalité, ils n'ont rien fait.
Voilà. Donc à voir. Bon, ceci étant dit, on ne peut pas blâmer forcément Valve pour ça, parce qu'ils font déjà au quotidien...
Un peu de boulot.
Un peu de boulot pour nous aider, nous, Linuxiens, à pouvoir...
Même si on joue chez GOG, avec GOG.
Oui, mais bon, ils participent à la communauté open source. Voilà. Alors effectivement, Epic Games s'y met, à voir. Peut-être que, de la même façon que j'ai dit que je n'achèterai jamais de jeux Windows, maintenant j'en achète, parce que je peux y jouer sous Linux, peut-être que dans quelques mois, en montant patte blanche, effectivement, j'achèterai des jeux sur l'Epic Game Store, mais pour l'instant, c'est vraiment pas gagné.
Mais Battlefield 5, là, c'est de qui ? C'est édité par qui ?
C'est Electronic Arts, qui est en plus une société je ne porte pas particulièrement dans mon cœur, parce qu'ils ont prouvé plusieurs fois qu'ils n'aimaient pas leurs joueurs non plus.
Electronic Arts, c'est pas eux qui avaient fait les séries de Leech Revenge. C'était quoi Leech Revenge ? Des point and click.
Non.
Comment c'était ça ?
C'était Luc, il y avait Lucas.
Oui. Ah, c'était peut-être Lucas, oui.
Non.
Oui, ça devait être Lucas.
Oui, les Monkey Island.
Monkey Island.
Voilà.
Ah, il y avait quelqu'un d'autre qui me répondait non.
Voilà. Oui, comme dirait Striker, moi aussi j'aimerais bien acheter Become Humans, Detroit Become Humans. Alors moi, pas parce que c'est un pote du collège qui l'a codé, mais parce que ça a l'air d'être un sacré jeu et qu'il utilise Vulkan comme API graphique et qu'il l'utilise à merveille parce que le jeu est de toute beauté. Bon, bref. On va clore cette petite page jeux vidéo.
Oui. Clôturer l'émission du coup ?
Non, on a une fête à annoncer. On va faire une dernière pause musicale qui dure 2 minutes 39 et ensuite on va pouvoir... Clore okay. L'émission.
D'accord.
À tout à l'heure. Après le morceau de Marlene Rambeau, l'album s'appelle Qu'est-ce que tu fais pour des balances et
le morceau s'appelle Marlene Brando.
Brando. Exactement.
Et la licence ?
C'est Creative Commons by NCS.
Attends, je vais te la chercher du coup. Attendez,
j'ai l'IRC, CC
by NCND, non dérivative. Désolé, c'est de ma faute.
C'est ND.
Mais c'était joli comme morceau.
Exactement. Allez, on y va. Marlene Rambeau sur Radio Girol. Et voilà, c'était Marlene Rambo, le morceau Marlene Brando. Excellent morceau musical. Merci Simage pour la playlist de ce soir. Nous arrivons dans la dernière ligne droite. Elle sera très courte, très très courte de cette émission. Et nous allons parler de Windows 7 parce que ça y est, il s'en va. C'est la fin. Il prend sa retraite.
Oui, Windows 7, c'est obsolète.
Et je pense que lui n'aura droit à aucune indemnité. Ceci étant dit, il nous devance peut-être, sûrement d'ailleurs. Mmh. Il s'en va. Définitif. Et du coup, on organise jeudi prochain à Girol un petit apéro. Venez avec un petit truc à grignoter, un petit truc à boire. Et on fêtera ça. On fera sauter un bouchon. Alors, ça sera peut-être pas du champagne. Hein, n'exagérons rien. C'est Girol.
Tourne plutôt à la bière.
Voilà. Et du coup, on fera un petit reportage in vivo de notre apéro qu'on diffusera le mois prochain.
S'il y a quoi? S'il y a de quoi faire.
S'il y a de quoi faire, mais oui. Il y aura forcément de quoi faire, ça va rigoler. On va fêter la fin de
FinSet, voilà, comme ce logiciel merveilleux.
Exactement. Ceci étant dit, c'était pas un mauvais système d'exploitation, mais c'est dans les Windows, il fait partie du 1 sur 2.
C'est surtout que le Windows 10, il n'est pas encore vraiment stable, d'après ce que j'ai vu.
Non, il est. Alors, je suis désolée de dire ça, là, ici, maintenant, mais Windows 10 n'est pas le pire des Windows que j'ai vu.
Par contre, si on passe
tout le côté récupération de données et voilà tout ce, enfin si on enlève toute la partie vie privée, respect des données personnelles, etc. Non, il est pas si mal. Bon, et puis il faut pas avoir un ordi trop
vieux.
Pas forcément vieux, mais c'est vrai. Enfin,
un
tu vois,
peu puissant, même pas forcément vieux.
Mais il y a des
vieux,
gens qui ont des cordes duo, tu vois. Des gens qui ont des cordes duo ou des Pentium plutôt. C'est du Pentium, mais en dessous du corde duo. Enfin, ça reste un double cœur.
Non,
mais,
ça dépend. Il y a des Pentium qui sont sortis après les cordes duo.
Les cordes duo, ça existe plus?
Non, ça existe.
Ah oui, t'as
plus.
Raison.
C'est les cordes i3, i5, i7, oui. Mais même certains.
Mais maintenant, c'est Pentium, donc les doubles cœurs. Oui. Voilà. Donc ceux qui ont des Pentium, voire des Centrino, parce que ça existe encore et c'est la classe encore
non,
en dessous.
Non, ça n'existe plus.
Ça n'existe plus les Centrino.
Non, c'était Centrino.
J'en ai vu passer.
C'était un core. Le Centrino était un core duo. C'est ouais. Les premiers double cœurs qui étaient en 32 bits exclusivement avec une carte Wi-Fi. Les Centrino 2, c'était des cores de duo avec une carte Wi-Fi un peu plus performante.
Et ça n'existe plus du tout. Il n'y a plus de Centrino.
Il n'y a plus de Centrino.
Mais il y a encore des Pentium.
Il y a encore des Pentium.
Voilà. Eh ben, je peux vous dire qu'un Pentium avec Windows 10, ça passe. Il faut aimer regarder une page web par une page web et pas ouvrir plusieurs onglets.
Enfin, toujours est-il que de la même façon que pour les plus vieux d'entre nous, je te regarde, Isa.
Mais oui, tu peux me regarder.
Les polybristes, nous avons assisté ébahis à l'enterrement du brevet sur le GIF animé. Voilà, ça avait fait on avait dû en parler dans les tout débuts de Radio Girol. Ça, on avait, enfin, je me rappelle dans une université américaine avec le cercueil et tout, ils ont enterré du coup le brevet sur le GIF qui appartenait à l'époque à CompuServe, qui ne doit plus exister ou qui a été racheté, sûrement par AOL, qui a été racheté par, enfin,
oui,
bon, bref. Nous allons nous enterrer Windows 7 enfin, et nous allons proposer justement.
N'enterrez pas trop vite.
Oui, nous allons proposer à tout le monde, tout un chacun, de venir remplacer le Windows 7 sur votre ordinateur par une distribution Linux qui vous permettra d'aller sur Internet,
de faire les mêmes choses que vous faisiez
avec
votre Windows,
de regarder des vidéos,
etc.
Tout en ayant un système sécurisé et qui sera mis à jour. Parce que rappelons-le pour les auditeurs les moins férus d'informatique, à partir du moment où Microsoft arrête le support de Windows 7, il n'y aura plus de mise à jour. Aussi catastrophique soit-elle, les mises à jour sous Windows vous permettent d'avoir un logiciel qui a été sécurisé et qui vous...
Oui, en fait, ce que ça veut dire, c'est que toutes les mises à jour de sécurité, tous les patchs, à chaque fois qu'on rencontre une faille de sécurité dans un logiciel Windows, bah, ça ne sera pas patché.
Non.
Donc, il y aura des failles de sécurité trouvées, sans doute par des personnes, et pas refermées.
Et rappelez-vous qu'un Windows non patché sur Internet met moins de 30 minutes à être infecté.
Et pourtant, je connais des personnes, et là, je connais au moins une personne qui est sous XP. Aujourd'hui, et qui va sur Internet, et a priori,
qui
n'a pas de souci.
Non,
aucun souci.
Je pense qu'il n'y a pas forcément une infection à chaque fois qu'on va sur Internet, c'est rien que Windows. Mais voilà.
Ça dépend ce que tu fais, c'est toujours pareil.
C'est toujours pareil. La problématique qui se passe poser, c'est que on va dire aux gens qui avaient Windows 7 que leur machine n'est pas compatible avec Windows 10. C'est ça le plus gros problème au final. Que Windows 16 s'arrête, ok. Mais si derrière, il n'y a pas un OS qui peut suivre ta machine, c'est ça le problème.
C'est surtout, oui, voilà, c'est à une époque où on parle de problèmes d'obsolescence programmée, que on voudrait que l'informatique devienne un peu plus verte, etc. l'idée de jeter des ordis qui fonctionnent encore,
oui,
ça en agace quelques-uns.
Mais je pense qu'il va falloir attendre un petit peu, là, la fin janvier, début février. Je pense que ça va devenir un peu plus mainstream quand ça va vraiment arriver dans les entreprises, les PME, etc., etc. Ça va prendre de l'ampleur.
Sauf que les entreprises et les PME, elles vont pas passer à autre chose qu'à Microsoft.
Non, mais c'est un problème. Changer de matériel, c'est quand même un coût.
Ah oui, ça, on est d'accord.
Oui, voilà. Donc à un moment donné, ça va vraiment poser problème. À mon avis, hein, on va voir.
Pour une entreprise,
je fais une hypothèse.
Suivant la taille de l'entreprise, mais pour une grosse entreprise, changer son parc. Nous, dans le cadre, je gère quand même une asso où il y a à peu près 350 machines. On n'a pas tout notre parc à changer. On a déjà anticipé.
Oui, il y a déjà pas mal de Windows 10.
Les Windows 7 sont à la marge. Vraiment.
Oui, parce je pense qu'après la fin d'XP, il y a eu quand même un peu plus.
Je pense qu'il y a beaucoup de PME où il n'y a pas 350 postes, effectivement, mais il y a beaucoup de PME où il y a très peu de postes, où les gens fonctionnent toujours un peu à la ramasse. Et j'en ai fait beaucoup, des entreprises comme ça, dans le temps où je travaillais, etc. Donc, moi, personnellement, je pense qu'il y aura des répercussions à ce changement, mais ça ne va peut-être pas se voir tout de suite. Ça va se voir un peu plus tard et puis ça va devenir un mainstream.
On va regarder de près les statistiques d'utilisation de Linux.
Moi, je ne sais pas. Alors, quand XP s'était arrêté, on avait vu arriver chez Girol, en tout cas, pas mal de personnes qui disaient moi, mon ordi, il marche, j'ai envie qu'il continue. Voilà, est-ce que vous pouvez m'aider? Il y avait eu un petit fond comme ça de personnes. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que pour Win7. Vu qu'il y a eu XP avant, les personnes sont soit déjà passées à Linux, soit vont passer
Le paysage a bien changé. Et je le vois, moi, dans mon quotidien professionnel, c'est que les machines ne durent plus aussi longtemps. C'est-à-dire que moi, je travaille avec un Lenovo, un T400 qui a 11 ans. Les machines actuelles de mon parc, elles durent 3 ans.
C'est-à-dire, qu'est-ce qui lâche ?
Tout, c'est que t'as l'ordi arrête de fonctionner, tu as beau réinstaller le système, c'est lent, c'est tout qui lâche.
Ça lâche.
Qu'est-ce qui lâche, le matériel ou c'est les OS,
c'est les logiciels qui deviennent trop lourds.
Non, c'est pas les OS, parce que j'ai une machine, on a fait le test d'installer par exemple du Linux sur des machines qui lâchaient parce qu'elles étaient extrêmement lentes. Ces machines étaient aussi extrêmement lentes.
Sous Linux. Même. Donc, ça veut dire que là, c'est vraiment la qualité du matos qui devient tout pourri.
C'est la qualité du matériel devient vraiment pourrie. Les plastiques lâchent. J'ai des postes à 3 ans, la plasturgie ne tient plus nulle part.
Ouais, alors ça j'ai vu sur des portables aussi.
Et du coup, ce qu'on se retrouve à faire, c'est qu'on essaie, quand il y en a un où la carte mère a lâché, on essaie de transborder,
on recompose.
Et encore, je bosse dans l'associatif, donc j'ai pas d'impératif, j'ai moins d'impératif de rentabilité ou pas de performance, mais de rentabilité justement. On va plutôt chercher l'économie. Hein. Mais je serai DSI dans une grande entreprise. Je mettrai pas mes techniciens informatiques à travailler pendant 3 heures changer la plasturgie d'une machine. Je préférerais en acheter une autre à 300 euros. J'ai même pas besoin de la rentrer dans mes dotations pour amortissement.
Attends, un ordi qui dure 3 ans, c'est quand même la loose, quoi. Enfin,
oui,
vraiment la loose.
Mais bien sûr.
Que ce soit en termes d'écologie, c'est la loose, mais surtout en termes de finances, d'entreprise, au prix que ça coûte.
Oui, mais les machines coûtent trois fois moins cher que.
Tu rigoles, c'est hyper cher.
En
mode pro. Vous avez des tarifs de malade.
Non, on achète des Celeron avec un Windows. Alors, par contre, on a passé beaucoup de temps. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à écrire des scripts PowerShell pour alléger le plus possible les Windows, ce qui devient utilisable sur des Celeron. Parce que le Celeron est en dessous du Pentium.
Oui, je sais, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Mais tu me disais que ça n'existait plus. Mais ils ont existé, t'en as encore.
Les Centrino. Tu m'as dit Centrino.
Ah oui, pardon, j'ai confondu Centrino et Celeron. Excuse-moi, je pensais Celeron.
Les Celeron, oui, ils sont dessus du Pentium. Et les Celeron, on a des machines en Celeron qu'on achète 250 euros TTC.
Pourquoi j'ai dit Centrino ? C'était quoi Centrino ? Bon, désolé.
C'était l'ancienne gamme des portables communicants de chez Intel. C'était qui prévoyait un core Duo ou un core de Duo avec une carte Wi-Fi.
D'accord. Et ouais, je pensais Celeron.
C'était
en fait.
Une appellation commerciale.
Oui.
Bon, bref.
Désolé.
Dire que nous allons fêter ça et nous allons proposer à tout un chacun de venir découvrir Linux avec nous pour voir qu'il est possible. Une autre informatique est possible, qui est plus respectueuse de l'utilisateur, de ses données, de sa vie privée, mais aussi de son matériel, en lui permettant d'utiliser plus longtemps le matériel pour le même prix.
Oui, si le matériel veut bien durer. Voilà. Mais le pire, c'est qu'eux, ils ont du matos qui tient encore.
C'est ça. En tout cas, nous, on se retrouve le mois prochain. Nous serons le 13 février, le jeudi 13 février, à partir de 19h, toujours sur notre site www.girol.org et sur Radio Station Essence. Merci, Guzel. Merci, Simage, et merci, Isa.
Merci à toi. Oui.
On dit un merci à Mathis sur l'IRC qui n'y est plus et qui doit tranquillement se reposer, et à notre ami Strikor. Que j'aime d'amour, parce que grâce à lui, je peux jouer à The Witcher 3 sur PC, et jamais je n'ai vu ce jeu aussi beau. J'y jouais sur console avant. Merci, du coup, Lutri, c'est, voilà. Mais c'est tout. Encore bonne année à tous.
Bonne année.
Et puis, au mois prochain.
Voilà.